heureux de vous retrouver pour cette deuxième rencontre. Vous auriez pu être ailleurs, mais vous avez choisi de venir ici et je vous remercie car pour certains, cela n'a probablement pas été facile de faire le choix d'être là ce soir. Avec les obligations familiales, sociales, professionnelles, ou même avec toutes les sollicitations auxquelles nous sommes soumis, qui font que vous aviez des raisons pour être ailleurs. Il y a des propositions ou des suggestions, plus il est difficile de choisir. Et pour bien choisir, il faut une certaine liberté. C'est justement de la liberté que nous parlerons ce soir, la liberté de choisir. La liberté est un concept fondateur de vie. Elle concerne tous les niveaux relationnels. Parmi les valeurs les plus essentielles de la vie, la liberté occupe une place prépondérante, avec la liberté individuelle, la liberté de penser ou de penser, ER, la liberté civique, la liberté religieuse, la liberté et la liberté des mœurs, etc. La liberté fonde tous les liens de relation. La liberté est une valeur précieuse qui est à la base de toutes nos actions. Mais une mauvaise compréhension de la liberté peut conduire à commettre des actes répréhensibles. Si je considère, par exemple, que être libre, c'est avoir la possibilité de faire tout ce que je veux sans avoir à rendre compte à qui que ce soit, ni même sans tenir compte de personne, je peux voler, tuer, commettre l'adultère, me suicider, etc. D'où l'importance d'avoir une conception juste de la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? En publiant le 26 août 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le premier article dit que l'homme ou les hommes naissent égaux et demeurent égaux, libres et égaux en droit, les Français n'ont fait que formuler ce qu'était la situation de l'homme dès les origines. En effet, la Bible commence en disant, dans Genèse chapitre 2, versets 19 et 20, que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Ce texte introduit l'incroyable liberté offerte par Dieu à l'humanité, une liberté aux possibilités illimitées, liberté de choisir, liberté de décider et d'entreprendre de façon autonome. Dieu aurait pu donner des noms aux animaux, mais c'est à l'homme qui donna, il demanda de le faire et qui le fit librement. C'est aussi l'homme qui décida librement de manger dans le jardin d'Éden le fruit dont Dieu lui avait pourtant interdit la consommation. Dieu l'a voulu ainsi en donnant à l'être humain la capacité de choisir et en lui donnant la possibilité d'exprimer librement son choix, même celui de ne pas lui obéir. Avec la désobéissance d'Adam et Ève vont naître la jalousie, la haine, l'orgueil. Les désirs de l'homme se porteront de plus en plus vers le mal. Le monde connaîtra le meurtre. La première victime, d'ailleurs, sera Abel, le fils cadet d'Adam et Ève. Le monde connaîtra les guerres, la torture, l'esclavage, dont on parle beaucoup en ce moment. Et les hommes vont connaître la peur, l'angoisse, les tribulations, les épreuves de toutes sortes. Nous comprenons pourquoi, dans l'Ancien Testament, la liberté est définie comme la victoire de Dieu sur l'esclavage. L'histoire du peuple de Dieu commence d'ailleurs avec la libération d'Israël de la captivité égyptienne. Lorsque Dieu mandata Moïse pour faire sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte, il lui dit, dans Exode chapitre 3, versets 7 et 8, Exode chapitre 3, versets 7 et 8, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » L'histoire de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte nous permet de comprendre que la liberté est avant tout une sortie de l'esclavage, mais une sortie au prix de beaucoup de souffrances, puisqu'il a fallu d'ailleurs que l'Égypte soit frappée de 10 plaies, dont la mort des premiers-nés des familles égyptiennes. L'histoire nous permet aussi de comprendre que la libération a pour objet de recréer les conditions nécessaires à la reconstruction d'une relation profonde entre Dieu et les hommes entre eux. Puisque Moïse dit à Pharaon, « Laisse aller le peuple pour adorer son Dieu. » Remarquons qu'au cours des âges, la liberté a toujours été acquise au prix de luttes, de combats, de guerres et dans la souffrance. Mais elle se construit aussi dans le face-à-face avec Dieu, et cela, nous ne devons pas l'oublier. C'est justement parce que les gens oublient cette dimension de la liberté qu'au nom de la liberté, ils commettent toutes sortes de méfaits. Ça, c'est le contexte historique. Mais au-delà de ce contexte historique, il y a la liberté individuelle. On parle de libre arbitre. Elle concerne chaque être humain. Il s'agit de sortir de nos esclavages subis ou construits pour accéder à la vraie liberté. Être réellement libre n'est pas un chemin facile. Et pour employer un langage courant, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La liberté, dans son sens complet, est le fruit d'une longue quête avec soi-même et face à autrui. Elle se construit au fil du temps, et là encore, avec pas mal de souffrances, car être libre, c'est savoir exprimer qui on est et ce que l'on veut vraiment. Et cela est essentiel dans toute relation. Viennent ensuite la volonté et la capacité de faire des choix, c'est-à-dire de se déterminer. La question n'est donc plus de faire à notre guise, de faire ce que nous voulons, mais plutôt de réfléchir en fonction des informations dont nous disposons, entre autres du Créateur, donc dans sa parole, pour discerner non pas uniquement ce qui est bon ou pas, bon à regarder, bon à manger, à boire, à toucher, etc., mais ce qui est avantageux et profitable pour nous, c'est-à-dire qui peut conduire à notre bien-être, à notre bonheur. La volonté est alors incontournable si l'on veut viser à l'harmonie et au bonheur pour soi et dans sa relation à Dieu et aux autres. Adam et Ève savaient ce qui était bien pour leur avenir et leur bonheur. Ils avaient la liberté de choisir, mais ils ont choisi de ce qui était bon au goût, agréable à la vue. Il leur a manqué la volonté de se maintenir dans ce qu'ils savaient pourtant être juste et avantageux pour leur bonheur. Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul déclare au chapitre 5, et au verset 13. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Concevoir une liberté qui conduit uniquement à satisfaire nos envies et nos désirs du moment, sans réflexion, une liberté qui conduit à des comportements ou des actes destructeurs de notre avenir ou de notre bien-être, est une contrefaçon de la liberté. La vraie liberté n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est un état intérieur au service de la vie. Le texte que nous venons de lire révèle cette profonde liberté intérieure qui peut même parfois nous effrayer. Elle peut nous effrayer parce que cette liberté intérieure peut se déployer librement vers l'obéissance ou vers la désobéissance, vers le bien ou vers le mal, vers la vie ou la mort, comme dans le jardin d'Éden. L'histoire de la désobéissance d'Adam et Ève révèle que cette liberté intérieure peut être influencée par nos propres désirs, par le désir de ceux que nous côtoyons, et même par un adversaire comme le serpent. Mais ces réalités intérieures et extérieures, aussi importantes qu'elles soient, ne sont que des influences que nous ne sommes pas obligés de suivre. Et cela me semble important et me conduit à un des textes de l'Ancien Testament qui fait justement appel à notre libre arbitre. Je lis en effet, et je vous invite à lire dans Deutéronome chapitre 30, au verset 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Dans ce récit, nous découvrons que Dieu est, premièrement, se met à côté de nous. Je dirais à côté de chacun de nous parce que il parle à la deuxième personne du singulier. J'ai mis devant toi, dit-il, la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Tu as le choix. Tu peux choisir de vivre ou de mourir. Tu peux choisir de jouir de bénédiction ou de subir la malédiction. Dieu se présente, deuxièmement, comme un conseiller. Un conseiller qui respecte notre liberté intérieure, qui respecte notre capacité de choisir, qui ne nous oblige pas, qui ne nous force pas. Un conseiller qui nous encourage simplement à suivre un chemin, le chemin de la vie. Ce chemin, mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est celui dont le cahier des charges est donné par le prophète Ésaïe et que je nous invite à découvrir dans le chapitre 61 de son livre. Ésaïe, au chapitre 61, et nous lisons au premier verset. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce chemin, c'est Jésus. Jésus dont le cahier des charges a été écrit environ 800 ans avant sa naissance. Jésus qui a dit lui-même dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Notons que la notion de liberté se trouve justement au cœur même de ce cahier des charges. Une liberté qui se révèle davantage comme une libération de tout ce qui serait un joug pour l'homme. Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Libération de tout ce qui ne contribue pas au bonheur. Combien d'êtres humains sont en effet malheureux à cause de la maladie, des pressions du travail, à cause de relations difficiles, ou simplement à cause de la solitude. Jésus a une bonne nouvelle pour eux. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Libération de toutes les causes de souffrance morale, affective, sentimentale, physique, spirituelle, psychologique. Combien d'hommes et de femmes ont en effet le cœur brisé par les épreuves, la déception, les séparations douloureuses d'avec un être cher. Jésus peut les guérir. Proclamer aux captifs la liberté. Libération de tout ce qui entrave la liberté de penser, d'agir, de décider pour soi-même. Combien d'êtres humains sont en effet captifs du camp, dira-t-on, captifs de l'enseignement des ancêtres, captifs des traditions, etc. Jésus peut les en libérer. Proclamer aux prisonniers la délivrance, libération de tout ce qui emprisonne l'homme. Combien d'hommes et de femmes sont prisonniers de l'alcool, de la drogue, du tabac, du sexe, prisonniers de certains engagements, esclaves de leurs passions et même des erreurs du passé et ont besoin d'en être délivrés. Jésus peut les délivrer. Et ce cahier des charges de Jésus correspond tout à fait aux relations que Dieu veut que son peuple entretienne avec lui et avec les autres. Puisque parlant du jeûne, il dit toujours dans le livre du prophète Ésaïe, mais cette fois au chapitre 58, au verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. » Nous avons vu que le cahier des charges de Jésus correspond aux relations que Dieu veut que son peuple entretienne, d'une part avec lui, d'autre part avec les autres, parce que le jeûne s'inscrit dans la relation avec Dieu et que tout ce qui est demandé à ceux qui jeûnent est en relation avec les autres. Voilà le choix en face duquel nous sommes. Choisir d'être affranchi, d'être libéré de tout ce qui nous empêche de vivre et d'être heureux, même lorsque tout autour de nous nous laisse penser ou conduit à un esclavage. S'affranchir ou se libérer d'une dépendance, quelle qu'elle soit, n'est pas facile. Nombreux sont ceux qui aimeraient être libérés d'un sentiment de culpabilité, d'un handicap, d'un esprit de vengeance ou simplement d'une faiblesse quelconque et ont du mal à en être libérés. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu ne se contente pas d'être à côté de nous, ni même d'être un conseiller qui invite à choisir la vie. Il se présente aussi comme un partenaire. Un partenaire de chacun de nous pour nous libérer à coup sûr de tout ce qui nous empêche réellement d'être libres. Jean, l'évangéliste, déclare dans Jean 8, au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Seule la vérité peut nous affranchir de toute dépendance, quelle qu'elle soit, peut nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être vraiment heureux, libres et heureux. Cette vérité n'est ni un dogme, ni une théorie savante. Cette vérité est une personne. Nous avons lu tout à l'heure les paroles de Jésus qui a dit être le chemin, la vérité et la vie. Et l'évangéliste Jean déclare dans son évangile, au chapitre 8, au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Être réellement libre n'a rien de commun avec les slogans libertaires de notre société sécularisée qui dit « Fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et personne n'a le droit de te contraindre ou de te reprendre. » Être réellement libre, c'est retrouver cet espace qui nous permet de nous repositionner dans notre relation à Dieu. C'est accueillir dans notre cœur le message du Christ, le libérateur, qui a donné au concept de liberté son contenu complet, en se faisant le champion de la cause des opprimés, des oppressés, des sans défense. Jésus est aujourd'hui encore la solution à toute dépendance, tout esclavage, tout emprisonnement. Jésus est la solution pour tous ceux qui veulent être libres, vraiment libres. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui prolongera nos jours. Nous pouvons donc paraphraser le texte du Deutéronome de la façon suivante. Deutéronome 30, 19, 20. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis Jésus afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Christ est le libérateur. Il s'adresse à tous ceux et celles qui ont le cœur brisé. Il s'adresse aux captifs, sur tous les plans. Il s'adresse à tous ceux qui ont du mal à voir la réalité des choses, en particulier celles qui les asservissent. Il s'adresse à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont opprimés. Il est la réponse à toutes les préoccupations, à toutes nos peurs, à toutes nos angoisses. À la fin du XVIIe siècle, Fénelon disait « Dieu fit la liberté, l'homme fait l'esclavage ». Il y a du vrai dans cette déclaration. C'est pourquoi il est important pour chacun et chacune d'être volontaire dans le souci de préserver ce bien précieux qu'est la liberté, car il conditionne la suite de nos actions, il conditionne notre vie, tout simplement. Adam et Ève ont été tentés par le diable dans le jardin d'Éden. Ils avaient le choix entre obéir ou ne pas obéir à Dieu, et malheureusement, ils ont choisi la deuxième solution. Jésus-Christ a été tenté par le diable dans le désert. Il avait le choix entre obéir ou ne pas obéir à Dieu. Il a choisi la première solution. Nous sommes presque tout le temps tentés entre le bien et le mal, entre la fidélité et l'infidélité, entre réagir ou laisser tomber, entre dire la vérité ou mentir, entre être honnête ou ne pas l'être. Mais nous avons la liberté de faire le choix de nos actes. Notre adversaire, le diable, comme le dit la Bible, use de malice, de ruse, de séduction, de mensonge, pour pousser l'homme à faire sa volonté au lieu de celle de Dieu. Mais en aucun cas, il ne peut nous forcer la main et nous obliger à faire ce qu'il veut, car il n'a pas ce pouvoir. Nous avons le libre arbitre par rapport à lui. Le péché est certes agréable à la vue. Et certaines situations contraires à la volonté de Dieu procurent du plaisir aux yeux et au palais, comme ce fut le cas pour Ève, qui vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais c'est une voie que nous pouvons décider de ne pas suivre. Et nous, si nous voulons être agréables à Dieu et vivre l'éternité, c'est l'homme qui choisit d'être voleur, menteur, hautain, agressif, malhonnête, infidèle, jaloux, adultère, pessimiste. Et que de vies sont gâchées, amputées, déséquilibrées pour ne pas avoir eu le courage d'oser choisir. Le Seigneur nous invite ce soir à choisir la bénédiction qui vient de lui et pas la malédiction. Il nous invite à choisir la vie et non la mort. Cette vie consiste premièrement à expérimenter notre capacité de choisir en toute liberté, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de chercher à l'intégrer de notre vie sans être obligé, sans être influencé par qui que ce soit, indépendamment de toute considération ou de circonstances, tant affectives que morales ou professionnelles, sans souci du jugement des autres. La vie qui nous invite à choisir consiste, deuxièmement, à faire preuve d'audace, de choisir, selon sa parole, de faire du bien à notre prochain, de ne pas rendre le mal pour le mal, et même de faire du bien à ceux qui nous font le mal. Il s'agit de se préparer à vivre une vie où le mal ne sera plus, une vie où toutes causes de souffrance auront disparu. Jésus nous appelle à autre chose qu'une existence toute prête à consommer, comme dans les plateaux repas qu'on donne dans les avions. Il nous invite à choisir une vie qui laisse place à la rencontre, à la surprise, à la nouveauté. Il nous appelle à accepter le règne de Dieu sous nos cœurs et dans nos vies. Mais face à cet appel, une question se pose. Sommes-nous véritablement libres? Avons-nous vraiment la capacité de choisir librement? Quelle sera votre réponse à cette invitation? C'est souvent dans les moments difficiles, au moment d'une épreuve, de la maladie ou de deuil, lorsqu'on se retrouve au pied du mur, qu'on s'interroge sur ce qui est véritablement important dans la vie, sur ce qui est essentiel et ultime. C'est souvent dans de telles circonstances qu'on réalise que c'est tout de même Jésus qui a raison, qu'on est passé à côté de quelque chose, qu'on a raté même sa vie, ou au moins une bonne partie de sa vie, à courir après des chimères, des choses finalement sans importance, qui sont non seulement nous font perdre notre temps, notre énergie, mais qui risquent de nous éloigner des autres, de la vie véritable que Jésus nous propose. Mais il n'est pas utile d'attendre un événement tragique autour de nous pour nous poser les bonnes questions. L'Évangile nous y invite dès maintenant. Et peut-être pourrons-nous formuler cette question de la manière suivante: qu'allons-nous faire du reste de notre vie pour mettre à profit le temps qu'il nous est donné de vivre encore afin que nous puissions nous tourner vers Dieu? J'ai mis devant toi, dit Dieu, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta famille. Si Jésus nous invite à le suivre, ce n'est pas pour nous embrigader sous un autre joug. Il ne va pas libérer son peuple d'un esclavage pour le remettre dans un autre esclavage. Ce n'est pas pour nous enfermer dans un nouveau légalisme, mais au contraire, pour nous permettre de découvrir la vraie liberté, pour que notre destinée se trouve élargie, pour que notre vie soit véritablement lumineuse, vivante, porteuse de sens et d'espérance. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, amis, vous avez le choix. Vous n'avez pas choisi de naître, mais vous pouvez choisir l'orientation que vous voulez donner à votre vie. Nous avons le pouvoir de faire de nos vies ce que nous voulons. Nous pouvons donc choisir d'obéir à Dieu. Puissons-nous choisir la vie qui nous est offerte en Jésus. Il y a des paroles, alors que nous arrivons à la fin de ce programme, il y a même une prière que nous pourrions formuler ensemble. Mets en moi, Seigneur, ton amour. Transforme aujourd'hui mon cœur. Mais embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Nous avons la liberté d'exprimer une telle prière au Seigneur. Nous avons la possibilité de lui dire: de ton esprit, remplis-moi, transforme-moi, change mon être. Dirige-moi, Seigneur, par ton grand amour, embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Nous avons la possibilité de le dire, d'exprimer cette prière. Y a-t-il quelqu'un ici, ce soir, qui aimerait exprimer cette prière pour lui-même? Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Je vois la main de quelqu'un qui aimerait dire au Seigneur de le remplir, de le serrer sous son cœur, de lui donner la liberté de le choisir. Est-ce qu'il y en a une personne qui voudrait faire ce choix? Je vois la main de celui au ciel. Merci. Amen. Amen. il y en a une deuxième, il y en a une troisième, il y en a une quatrième. Il pourrait y en avoir plus. Merci, il y en a une cinquième. Soyez pas timide. Soyez pas timide. Le Seigneur vous attend là. Et peut-être que, avec le chant qui va être interprété tout à l'heure, peut-être que le Seigneur vous parlera. Et alors, vous accepterez d'être libre, réellement libre, pour choisir Jésus. Amen.